Session sur la béatitude par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 19 avril 1996, deuxième conférence.
Alors, on va continuer notre réflexion sur le royaume, du moins la béatitude. Et je voudrais simplement résumer ce que j'ai dit par rapport à l'Ancien Testament à travers cette petite phrase. C'est que tout l'Ancien Testament, c'est la pédagogie où Dieu achemine l'homme vers un bien terrestre, un bien surnaturel. Et que cette pédagogie, elle a pris certain nombre d'années. Donc il ne faut pas s'étonner si, dans nos personnes, on n'est pas pleinement acheminé vers un bien qui soit celui du ciel. Cependant, il faudrait en prendre le chemin. Voilà. Alors, revenons à l'agir chrétien. Vous voyez, les béatitudes sont là pour nous manifester la façon dont le chrétien doit s'accomplir. Alors, je soulignais que cet accomplissement, c'est quelque chose qui est déjà présent, tout en demandant un accomplissement futur. Mais autrement dit, pour nous, l'entrée dans le royaume, c'est un maintenant qui réclame de s'accomplir plus tard. Voilà, méditez là-dessus. Un maintenant qui s'accomplira plus tard. Mais cependant, il ne faut pas oublier le maintenant et en même temps ne pas oublier le plus tard. Parce que si on oublie le plus tard, on se prend pour des bienheureux. C'est de temps en temps, j'ai rencontré comme ça, à travers la vie apostolique, des gens qui se croyaient au ciel. C'est étonnant d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est merveilleux. Tout le monde est beau. Tout le monde est gentil. Généralement, c'est quand on est amoureux qu'on est comme ça. Puis après, il y a plus tard, si vous voulez. Il y a la fête et le lendemain de la fête. Bon, Vous voyez, ces moments d'euphorie extraordinaires, on se dit, ça y est, on y est déjà. Vous voyez, une oraison jubilatoire. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein? Bon. Et immédiatement, on pourrait se dire, ça y est, on y est. Mais non, il y a aussi un acheminement vers. C'est aussi l'expérience du mariage. La joie des gens qui sourient, c'est aussi l'expérience du mariage. Il y a le jour du mariage et puis il y a le lendemain. Pas le lendemain immédiat, mais si vous voulez, il y a aussi le moment où on se rend compte qu'on n'y est pas du tout, du tout, du tout. Alors vous voyez, c'est important de voir que l'agir chrétien va s'inscrire dans un devenir. Un devenir qui, tout en atteignant son terme, est un devenir laborieux. Et ce labeur est décrit d'une façon assez précise dans le Nouveau Testament. Et ce labeur, il commence par quoi? Par cette parole extraordinaire, c'est « convertissez-vous ». Donc si vous voulez, c'est vrai que c'est un labeur qui est un peu particulier. Parce que pour accéder à la béatitude dans laquelle le royaume nous introduit, il y a une nécessaire conversion à faire. Et ce n'est pas quelque chose qui coule de source. Vous voyez, on voit ça, vous connaissez sûrement les mouvements du New Age, une sorte de mouvement où tout baigne entre les énergies cosmiques et les énergies vitales, entre le moi, le soi, le ça, le tu, le je, le il. Et tout ça, c'est extraordinaire, ça va bien, les rayons du soleil nous illuminent. Et, vous voyez, une sorte de bien-être spirituel. Mais ça, c'est un leurre. Mais il ne faut pas croire qu'on est capable d'accéder au royaume comme ça, les mains dans les poches. Non, non, le royaume souffre violence. C'est dans l'écriture, hein. Je suis désolé. Hein. Et la réalité de l'agir humain, dans sa description empirique, c'est une réalité de lutte et de combat. C'est pas une réalité de douce béatitude, vous savez, sorte de regard béat, ah, c'est merveilleux d'être chrétien. Non, non, il n'y a rien de merveilleux d'être chrétien. C'est merveilleux dans son terme, c'est une lutte dans son cheminement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le Christ ne l'a pas caché. Mais aujourd'hui, on veut le cacher, ça, que c'est difficile dans le cheminement. Il dit, mais non, vous inquiétez pas, mais il n'y a pas de problème. Mais si, justement, il y a problème. Et il n'y aura pas de problème au ciel, mais le devenir de l'agir de l'homme, c'est un devenir problématique. À ne pas oublier. Vous voyez, à pas oublier. Sinon, on risque d'être déçu sur l'exercice du chrétien, sur l'agir du chrétien. Parce que, vous voyez, dire « bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui ont faim », c'est pas l'idéal de l'idyllisme du spiritualisme New Age, si vous voulez. C'est pas vraiment le même chemin. Alors, comment va-t-on être invité à agir en vue du royaume? Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est de voir que y ait le royaume, il ne peut pas se partager. Il ne peut pas se partager avec autre chose. Autrement dit, le royaume est le motif par lequel il nous est demandé de tout sacrifier. Et c'est étonnant, c'est constant ça dans l'évangile. Même nos yeux, même nos mains. C'est, si ton œil t'entraîne à, enlève-le. Si ta main t'entraîne à, coupe-la. Alors on peut dire, mais ce sont des douces métaphores pour que, par lesquelles le Seigneur veut nous réveiller. Oui, mais c'est des douces métaphores qui veulent signifier que le royaume, ça doit être l'objectif exclusif de l'agir du chrétien. Alors ça, c'est un thème important, parce que, et trop souvent, on considère le royaume comme juxtaposé à l'agir humain. Donc il y a l'agir humain dans lequel on va se réaliser, mon travail, mes loisirs, ma détente, ma santé, et puis à côté, il y a l'agir chrétien, la messe, la prière. Mais c'est pas comme ça que l'évangile est constitué. Vous voyez, l'agir de l'homme nécessite d'aller vers le royaume. Et c'est un tel impératif que tout doit être ordonné à ce royaume. Alors vous comprenez que ça demande une sacrée conversion. Je ne sais pas vous comment vous êtes, mais souvent l'agir chrétien, pour la grande majorité, c'est simplement la dimension cultuelle, ou la dimension de la vie de prière. Vous voyez, notre vie chrétienne, c'est on prie. Non, pas du tout ça. Notre vie chrétienne, ce n'est pas la prière, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie d'enfant de Dieu, ce qui est très différent. Et l'enfant de Dieu, il est la source de tout, aussi bien de ma capacité intellectuelle que ma capacité volontaire, aussi bien que toutes mes capacités de réalisation. Et tout cela, c'est l'agir chrétien. Vous voyez, l'agir chrétien, ce n'est pas spécifiquement le temps de la prière. Ce n'est pas spécifiquement... vous voyez, prenons un exemple très simple, le repas. L'agir chrétien, c'est on bénit, et après l'homme mange. Vous voyez, pour faire en sorte que ce soit à peu près décent. On demande à Dieu que ce soit à peu près décent. Non, c'est pas ça l'agir chrétien. Et il n'y a pas de, juxtaposition entre l'agir de l'homme et l'agir du chrétien. C'est un seul et même agir, avec cependant une capacité nouvelle et une finalité nouvelle. Cette capacité nouvelle, c'est la grâce. Cette finalité nouvelle, c'est le royaume de Dieu. Et souvent, de ce fait-là, du fait de la dualité qu'on installe dans l'agir du chrétien, on a beaucoup de mal à être véritablement membre du royaume et à chercher véritablement le royaume. Parce que souvent, le royaume s'oppose à telle ou telle réalité de mon existence, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a rien d'étranger en moi qui soit au royaume, sauf le péché. Mais ce que je suis, absolument pas étranger au royaume. Vous saisissez un petit peu ça? C'est une notion importante pour éviter de mettre les choses en tranches, qui fait que d'un côté il y aura mon agir à moi, et de l'autre côté il y aura l'agir de moi en tant que baptisé. Le baptême, du moins en tout cas la vie nouvelle communiquée par le baptême, l'agir du chrétien baptisé, ben, c'est un agir qui prend sa totalité, qui prend tout l'homme. Alors, pour découvrir cet agir, il faut le découvrir au regard de la finalité nouvelle. Vous voyez, l'agir de l'homme est intelligible, l'acte de l'homme est intelligible au regard de sa finalité. S'il n'y a plus de finalité, il n'y a plus d'intelligibilité de son acte. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la finalité ayant quasiment disparu de toute réflexion de type théologique, la conséquence, ce sera de déstructurer l'agir humain. Autrement dit, vous voyez, du fait de la finalité, je vais découvrir ce que c'est que la structure d'un agir humain. Mais à partir du moment où la finalité n'est plus là, il n'y a plus de structure de l'agir du chrétien. Cette structure ayant disparu, qu'est-ce qui va rester? Il va rester simplement sorte de situation des uns et des autres, sorte de cas par cas, sorte de truc où on a chacun sa manière d'agir, on a chacun sa manière de vivre. Vous voyez, ça c'est très important, c'est ce que souligne un peu Jean-Paul II dans l'encyclique « La splendeur de la vérité ». J'espère que vous l'avez lu. En tout cas, sûrement les deux premières pages, après vous avez fermé en disant « Elle est sûrement splendide la vérité, mais elle ne m'est pas encore pleinement accessible ». voyez, je crois que ce qui est important, c'est de voir que trop souvent dans le domaine de l'agir, on est dans une situation de cas par cas, une situation purement empirique. Oui, pour l'un c'est ça, pour l'autre c'est autre chose. Parce qu'il n'y a plus de structurel aujourd'hui dans l'agir. La seule chose, c'est la correspondance avec moi-même. Il faut que ça me corresponde. Vous voyez, c'est qu'il y a quand même quelque chose de gênant. Vous voyez, par exemple, je sais pas, tel exercice de la vie chrétienne, la prière. Exemple anodin, hein, ça doit nous arriver de temps en temps. Et puis, si je ne regarde pas la finalité de la prière et cette capacité que j'ai à m'orienter vers Dieu dans la prière, je vais regarder simplement mon état, vous savez, l'état d'âme du priant. Alors un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas, 3 jours ça va pas, un jour ça va, 1 mois ça va pas, un jour... Vous voyez, c'est bon, la spiritualité qu'on connaît tous, autrement dit, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et souvent ça resterait plus longtemps en bas qu'en haut. Et pourquoi ? Parce que on a une conception de notre agir qui est simplement une conception, vous voyez, qui part de nous, autrement dit, qui est purement subjective. Puisque comme il n'y a plus de finalité, comme on ne découvre pas cette tension nécessaire vers une finalité, on va regarder son bien-être. Et son bien-être, quel est-il ? Ben, son bien-être, pour l'un, ce sera ça à tel moment, vous voyez, ce sera purement aléatoire. Et à partir de ce moment-là, l'agir humain, il est complètement faussé. Moi, c'est comme ça, pour toi, c'est comme ça. Vous savez, chacun sa vérité. On dit ça souvent. Et chacun sa manière de vivre. On dit ça souvent. Et donc, si moi je le sens pas, ben non, c'est pas pour moi. Vous voyez, c'est important de voir que l'agir du chrétien, c'est pas simplement qu'est-ce que je sens, de quoi j'ai envie. Mais ce n'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est la finalité donnée. Cette finalité donnée, c'est de vivre en enfant de Dieu. C'est ça le point de départ de l'agir du chrétien. Et vivre en enfant de Dieu, eh ben, j'en ai les moyens. Et ces moyens, c'est très simple, c'est d'expliciter en moi ce qu'est cette vie à travers la foi, l'espérance, la charité. Vous voyez, c'est là que se situe principalement l'agir du chrétien. À travers l'exercice de la vie divine, avec la foi, par la foi, l'espérance et la charité. Autrement dit, la structure de l'agir que nous donne l'Évangile, c'est une structure théologale. Mais cette structure théologale, elle se manifeste dans une structure anthropologique. J'explique, non, je vois des têtes là. Autrement dit, si vous voulez, c'est pas simplement du théologal qui atterrit avec une sorte de truc complètement extérieur à nous-mêmes, c'est que ça s'enracine dans nos propres capacités humaines. Et c'est-à-dire, autrement dit, la structure de l'Évangile, qui m'est donnée par l'Évangile de mon action humaine, vient épouser mon humanité. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Parce que c'est un seul et même agir. Et dans l'homme, vous voyez, il n'y a pas deux agirs. Il n'y a que dans l'humanité du Christ. Du moins, il n'y a que dans la personne du Christ. Mais encore, oui, c'est même pas un agir. Il y a un double vélé, mais c'est tout. Mais il n'y a qu'un acte impéré. Ça pour les spécialistes. Alors, vous voyez, c'est important de comprendre que la spécificité de l'agir du croyant se tire de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vie théologale. Et cette vie théologale, je vais la comprendre en fonction de l'entrée dans le royaume. Et souvent, l'Évangile nous décrit, prendre possession du royaume. Ça montre bien que le terme... La possession du royaume, c'est le fruit d'un acte. Et c'est pas simplement, vous voyez, une sorte de cachet de Valium qu'on nous donne et on est bien. Vous voyez, c'est Jésus serait là, et vous voyez, la prière, l'Esprit Saint vient, on est bien, puis on reste bien. Le but, c'est d'être bien. Alors ça va, mais ça ne dure pas, généralement. Sinon, prenez du Valium avant que chaque oraison. Je vous assure, vous serez bien. Vous voyez, c'est important de voir qu'il y a une insistance sur l'agir. et non pas sur l'État. Et nous, on rêve le bonheur comme un État. Ça, c'est clair. On aimerait être dans un État bien heureux. Mais ça, ce sera le ciel. Oui, mais actuellement, c'est le bonheur, il ne s'atteint que par tel ou tel acte. Que ce soit un acte d'amour, que ce soit un acte de contemplation. Alors, mais l'étude de saint Thomas précisera tout ça. Je ne fais que le souligner. Alors, maintenant, si on regarde, vous voyez, les actes spécifiques du chrétien, je vais prendre ces trois actes de vertu théologale et de les regarder dans la lumière de la finalité chrétienne. Autrement dit, la foi, l'espérance, la charité. Et la foi, bon, c'est, on connaît tous un petit peu ce que c'est que la foi, c'est ce qui me permet de participer à la connaissance que Dieu a de lui-même. Et cette connaissance, elle est toujours finalisée par la vision béatifique, autrement dit par l'éternité. Mais ce n'est pas une connaissance de curieux qu'on engrange dans un bouquin. Mais la foi, ce n'est pas dans un livre. Et le livre vous donne le support matériel de la foi, mais la foi, c'est cette relation immédiate avec Dieu qui se communique à vous, dans sa lumière. Et il est très important de voir qu'à partir du moment où la finalité de la foi est supprimée, qu'est-ce qui va rester ? La connaissance, le savoir. Donc le savoir de foi, qui va être, on sait que Dieu est bon. Voilà, je sais que Dieu est bon, moi c'est très bien, il est bon. Je sais qu'il y a trois personnes dans la Trinité. C'est très bien, ils sont trois. Je sais qu'il y a deux natures dans la personne du Verbe de Dieu, du Verbe incarné. Donc voilà, ça je sais. Vous voyez, ça c'est la dimension matérielle de la foi. Mais tout cela est censé être finalisé par la vision béatifique, autrement dit par le ciel. Vous voyez, et à partir du moment où la finalité n'est plus présente, la foi sera simplement un exercice de dextérité intellectuelle. Et cela selon nos conceptions de l'intelligence. Vous avez les intelligences angoissées. Donc dans la foi, on va trouver des réponses. Vous voyez, les grands chercheurs, vous voyez, c'est avoir la foi, c'est être en recherche. Il y a les grands chercheurs existentialistes qui se disent « Qui suis-je? Que fais-je ?» et puis le reste. Vous voyez, j'ai des grands doutes métaphysiques. Sur ma petitesse et la grandeur de l'univers. Sur la toute petitesse de la Terre et la grandeur de l'univers. Donc la foi apporte des réponses. Vous voyez, souvent, on peut regarder la foi de cette façon, comme quelque chose qui vient consoler les défaillances de mon intelligence. Quelque chose qui vient me rassurer. Et psychologiquement, je ne suis pas très bien, ça ne va pas, j'ai le doute, ça... Bon, ben très bien, je me dis, ça... Oui, ça me rassure, parce que Jésus est là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que là, on n'est plus du tout dans le registre de la foi, on n'est plus du tout dans un agir, là. Mais parce qu'il n'y a plus de finalité. Mais toute connaissance que j'ai de Dieu doit me rapporter d'une façon claire et précise de ma vision béatifique. Vous voyez, ça tue la curiosité, ça. Oui, au sens, alors, si vous voulez, la théologie, c'est pas l'exercice de la foi en tant que telle. Vous voyez, je parle pas de la théologie. La théologie, c'est pas de la curiosité. La théologie, c'est défendre la foi, c'est l'exprimer. C'est double réalité. Défendre la foi et l'exprimer. Du moins, l'exprimer et la défendre. Mais ça, c'est pas, vous voyez, c'est pas vital pour un chrétien de faire de la théologie. Par contre, c'est vital pour un chrétien de poser un acte de foi. Et faut-il savoir ce que c'est que poser un acte de foi? C'est pas simplement connaître Jésus. C'est connaître Jésus en tant que je l'atteins et en tant que sa lumière devient ma lumière, ce qui est quand même très différent. Mais ce n'est pas l'atteindre comme un objet extrinsèque à ce que je suis. C'est de l'atteindre comme un objet qui me détermine et qui m'apprend ce que moi je suis. Mais c'est ça, là, au sens strict, la connaissance de la foi. Et il faut reconnaître que Et cet agir qui est vraiment spécifique aux chrétiens, mais s'il n'a plus cette dimension finalisée, mais on tombe dans l'opinion. Et ça, on en est noyé aujourd'hui. Vous savez, l'opinion, combien de fois vous avez entendu dire, en tout cas, moi je l'entends régulièrement, vous savez, votre religion est Bouddha. Moi, je n'ai pas fait l'expérience d'une révélation intime de Bouddha, si vous voulez. Ou sinon, Mahomet. Vous voyez, mais on est dans le pluriel. On est dans le pluriel. Bon, il y a l'opinion chrétienne, il y a l'opinion judaïque, il y a l'opinion musulmane. Vous voyez, c'est quand même dangereux si un chrétien pense déjà comme ça. Mais ça montre que la foi n'est pas présente. Parce que le propre de la foi, c'est, vous voyez, d'exercer quelque chose qui m'est donné par Dieu et qui me fait atteindre Dieu dans ce qu'il est, lui-même. Alors il est clair que ça me dépasse. Hein. C'est évident que ça me dépasse. Mais cependant, cette lumière que Dieu me donne, c'est la lumière vers laquelle je m'achemine. Vous voyez, la foi, ce n'est pas quelque chose de comparatif. Et la connaissance de la foi, ce n'est pas quelque chose de comparatif. La théologie pourra faire des comparaisons. Ça, ce n'est pas le propre de la foi d'être comparative. Et la foi réclame dans son exercice une adhésion à Dieu qui se donne. Et d'une façon présente, hein, pas dans un souvenir. Mais la foi, ce n'est pas un souvenir. Ah, je me souviens, oui, dans mon catéchisme, on me disait que... Donc faut-il que actualiser ce don de Dieu dans sa lumière? Et ça réclame l'exercice de notre intelligence et de notre cœur. C'est d'être capable de se mettre face à Dieu qui se donne. Alors toute la sacramentalité est là pour nous permettre de le vivre pendant notre pèlerinage terrestre. Et toute notre vie, que ce soit notre vie de prière ou que ce soit la lecture des Écritures, que ce soit la vie sacramentelle, vient actualiser pour nous cette réalité. Et cette communion à Dieu qui se donne. Alors après, le deuxième agir chrétien qui, à mon avis, est le plus complexe, c'est celui de l'espérance. Parce que pour que l'espérance soit vraiment finalisée, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et l'espérance, c'est quoi? C'est tendre vers un bien qu'on ne possède pas. Ça, c'est clair. Hein. La Palice aurait dit la même chose. Mais tendre vers un bien difficile. Vous savez, bon, rapidement, vous voyez, l'analogie qui nous fait comprendre ça, c'est la passion de l'espérance. L'espérance, c'est une passion. Vous voyez, je suis en face d'un bien que je n'ai pas, qui ne va pas être facile à avoir, mais cependant, j'espère l'avoir, ce bien. Mais prenons un exemple. J'essaierai d'en trouver un autre. Si vous voulez, je crois que c'est important de voir que à partir du moment où l'homme est appelé à vivre dans l'espérance, il est invité à assumer tout son devenir comme tendant vers le royaume. C'est ça l'espérance. L'espérance, c'est assumer tout le devenir de notre vie comme tendant vers le royaume. Et le corollaire de l'espérance, c'est ce qu'on appelle la crainte. Et la crainte, en tant que par la crainte, le croyant n'a qu'un seul désir, c'est de correspondre d'une façon parfaite à ce qu'est Dieu et à l'attente que Dieu a sur lui. Autrement dit, entrer dans le royaume. Non pas la crainte, hein, comme « attention, si tu fais pas ça, t'iras pas ». Mais la crainte au sens fort du terme. Autrement dit, la crainte de ne pas correspondre à celui qui nous aime. Et ça, on oublie aussi, vous savez, le langage de crainte. Hein, bon, pas si on vous prêche souvent sur la crainte de Dieu, mais c'est quand même quelque chose de fondamental dans l'Écriture, la crainte. Parce que c'est le moyen par lequel ma vie correspond à l'appel que Dieu a sur moi. Alors, vous voyez, l'espérance, c'est le lieu où je tends vers un royaume, vers le royaume. Ce royaume, il est à venir. Autrement dit, j'y suis pas encore, hein. Je suis pas encore dans la vision de Dieu. Mais cependant, j'en fais déjà l'expérience maintenant. Parce que maintenant, je touche le secours de Dieu qui vient me faire tendre vers ce royaume. Ça, c'est le propre de l'espérance. Vous voyez, et le propre de l'espérance, c'est non pas tant de tendre vers le royaume, mais c'est de faire l'expérience du secours divin qui me fait tendre vers ce royaume. C'est ce que dit saint Thomas quand il parle de l'espérance. La dimension formelle de l'espérance, c'est de... le secours divin qui me permet de tendre vers la plénitude du royaume. Et ça, ça réclame d'être finalisé. Parce que c'est ça la finalité de l'espérance. C'est l'expérience actuelle du secours divin. Et trop souvent, vous voyez, l'agir du chrétien qui supprime cela, l'espérance, c'est quoi? C'est la joyeuse attente. Ou l'attente, une sorte d'attente un peu complètement idéaliste. Je me prends des coups, c'est pas grave, ça passera quand on sera au ciel. Et ça, c'est pas un agir, c'est une attitude passéiste. Alors que l'espérance, c'est tout le contraire de l'attitude passéiste. L'espérance, c'est tendre vers le royaume avec le secours de Dieu. Et l'actualité de l'espérance, c'est ce secours de Dieu que j'expérimente dans mon acte concret. Mais à partir du moment où mon acte d'espérance n'est plus en tant que tel finalisé, je ne vais regarder que l'attente. Donc j'attends, voilà. Un homme qui espère, c'est quelqu'un qui attend. Et qui attend quoi? Comme il n'attend plus le secours divin, comme il n'attend plus le royaume, il attend quoi? Que ça se passe et que ça aille mieux. Vous savez, soi-disant, on va faire une terre d'espérance, vous savez, des sortes de cris des associations... multicatholiques et autres pour la fin et le développement. On a, vous voyez, l'attente d'une terre juste. Mais l'objet de l'espérance, c'est pas la terre juste ou c'est les bourgeons qui fleurissent. C'est pas ça l'objet de l'espérance. Et là, il y a quelque chose qui trop souvent dans l'agir humain est un petit peu faussé. Alors je vois rire certains. Ça veut dire que concrètement, on n'a pas à s'occuper de ça. Si. On a à s'occuper que les bourgeons fleurissent. Parce que c'est Dieu nous a confié ça. On a à s'occuper que la terre soit plus juste parce que Dieu nous l'a demandé. Et puis ça fait... nous sommes gardiens de notre lieu de vie. On est capable d'être source de notre lieu de vie. Mais le problème, c'est pas ça complètement l'espérance. Ça en fait partie. Mais l'espérance, c'est fondamentalement avoir cette capacité de... par le secours divin, de tendre vers la plénitude du royaume. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la foi, la foi n'est plus finalisée, on part de nous et de nos problèmes. Donc nos problèmes de la foi, c'est j'ai un doute, alors qu'est-ce qu'en dit Dieu? Oui, c'est pas mal, ça peut aller. Et pour l'espérance, c'est la même chose. L'espérance, je ne suis pas bien, j'espère que... Vous savez, jeudi soir, j'ai eu la chance de donner une conférence à Lyon à un groupe de célibataires. Alors j'ai commencé comme ça, est-ce que votre espérance, c'est le mariage? Tous ont dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on se prend? Et puis, à mon avis, au fond d'eux-mêmes, c'était un peu ça. Vous voyez, eh bien, ça, c'est pas l'espérance. Non, c'est l'attente que je puisse m'accomplir et me réaliser. Mais c'est pas la finalité du royaume, ça. Mais c'est dur à entendre. Hein. Mais pourtant, c'est vrai. Bien heureux ceux qui ont déjà passé le cap. Mais oui, mais il y a les quantités de... il y a déjà des quantités de lieux, il y a déjà des quantités de lieux dans lesquels... dans lequel on attend quelque chose, mais c'est pas du tout finalisé. On attend d'aller mieux. Je suis malade, j'ai l'espérance que bientôt on trouvera le médicament pour que j'ai plus des malaises. Oui, ben c'est plus un espoir qu'une espérance, ça. Parce que la finalité, elle est par rapport à moi-même. Elle n'est pas par rapport au royaume. Vous voyez, l'attente du chrétien, c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport au royaume. Et c'est ça la grande difficulté, vous voyez. L'espérance terrestre, c'est par rapport à moi, par rapport à mes propres biens. J'espère ce qu'il me manque. Et je sais ce qu'il me manque, parce que j'en ai l'expérience. Psychologiquement, je suis pas très bien. Effectivement, je suis pas très bien. Vous voyez, tous les trucs où on n'est pas très bien. Et ils sont légion, généralement. voyez, et puis on se dit, bon ben voilà, j'attends. Alors que l'espérance, voyez, elle se prend de Dieu. Et ça, j'en ai aucune attente, c'est ça qui est... Vous voyez, humainement, j'ai aucune attente du royaume. J'ai des signes de l'attente qui est en moi du royaume. Mais ça ne s'exprime jamais, j'attends le royaume. Faut-il que ce soit le Christ qui me le révèle, ça? Mais vous n'avez pas naturellement, même si vous en avez des signes, bon, j'attends le royaume de Dieu. Non, non, faut-il que je rentre dans cette relation avec le Christ qui lui-même m'indique vers le lieu vers lequel je vais. Parce que naturellement, je ne peux aller que vers moi-même. D'ailleurs, on voit ça très fort hein, dans l'Écriture, cette opposition entre immortalité et vie éternelle. Et dans l'Écriture. Vous voyez, ce que l'homme espère, c'est l'immortalité. Et là, les légendes sont multiples. Hein. Pensez à celle du phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. Et puis, l'attente de Dieu, c'est l'immortalité, c'est l'éternité pour l'homme, ce qui est quand même très très différent. Et d'un côté, je pars de mon propre besoin, de ma propre capacité. Et donc, c'est de là que je vais en découvrir la finalité. Ou de l'autre côté, je parle de la révélation que Dieu me fait. Et je découvre quelque chose qui me dépasse complètement. Et l'espérance théologale, c'est l'ouverture à... Par la charité, je suis revêtu de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui me permet de l'aimer comme il s'aime. Et d'aimer mon frère comme Dieu l'aime. C'est ça la charité. Ne pensez pas, oui, la charité, quand on dit « faites-moi la charité », c'est pas une pièce. Mais c'est pas ça. Ou sinon, quand on dit à quelqu'un, tu sais, je t'aime, mais c'est de charité, ça veut dire, écoute, je peux pas te supporter, mais parce que Dieu me demande de t'aimer, je t'aime. Vous voyez, la charité, c'est pas ça. C'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs et qui nous permet d'aimer Dieu comme il s'aime. Mais l'amour, il est toujours finalisé. Il est finalisé par rapport à un bien, et ce bien, c'est Dieu lui-même. Et ce qui est frappant, c'est quand le bien n'est plus là, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'exigence de l'exercice. Et l'exigence de l'exercice, c'est souvent le dépassement. Ou le devoir, il faut. Mais il faut prier. C'est sûr que si l'objet de la prière n'est pas là, ben si Dieu n'est pas là, oui, c'est que lui, il faut prier. Bon, on y va, il faut. Mais c'est important de voir que l'agir de la charité ne peut se faire que si nous sommes en face du bien qui nous est communiqué. Parce que l'amour, ce n'est pas un état non plus. Et l'amour, ce n'est pas un sentiment de présence. L'amour, c'est un acte qui me fait porter vers un bien. Et la finalité de cet acte, c'est d'atteindre ce bien parfaitement. Et cela à travers l'exercice de ma capacité. Alors là-dessus, je ferai une différence, une distinction très importante entre l'amour affectif puis l'amour effectif. Et l'amour affectif, c'est le sentiment que j'ai d'aimer. Ou plutôt, parce que c'est souvent le cas, le sentiment que j'ai d'être aimé. Parce que souvent, on préfère être aimé que d'aimer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est agréable d'être aimé. C'est intéressant, quand on prépare quelqu'un au mariage, il faut toujours lui poser la question, mais qu'est-ce que vous préférez, aimer ou être aimé? La réponse est toujours aimer, mais en fin de compte, ça veut dire être aimé. Vous voyez, et c'est vrai que c'est important de faire la distinction entre cet amour affectif, qui regarde l'état dans lequel je suis quand j'aime, et l'amour effectif, qui est l'acte par lequel je m'unis à un bien. Et c'est souvent le plus difficile parce que, vous voyez, ça rend réaliste l'amour effectif. Et l'amour humain en est le signe. Hein. Vous savez, quand on vit une amitié, il y a l'autre qui est là pour nous rectifier, qui nous dit, bon, t'es bien gentil, mais j'existe. Avec Dieu, non, il ne dit jamais ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein? Donc, vous voyez, on est souvent enclin à confondre une sorte d'élan affectif avec la charité. Dans l'amitié, c'est un peu plus difficile, quoique ça reste souvent une sorte de truc imaginaire dans lequel on se dit on s'aime, et en fin de compte, oui, on se dit que uniquement qu'on s'aime. On est unis par le fait de dire qu'on s'aime. Vous voyez, c'est vraiment... ça va loin comme amour. Mais non, ça va pas loin du tout. Vous voyez, il est important de voir que l'amour effectif, c'est effectivement quand je suis uni à celui que j'aime. Et c'est pas simplement le fait de le dire. Et l'unité à celui que j'aime, c'est l'unité de ma personne. Et ça, vous voyez, je ne l'ai pas souligné pour la foi parce que c'est un peu plus complexe, mais en tout cas pour l'amour, c'est très clair. Vous voyez, trop souvent, l'amour, c'est une unité qui est une unité de deux cœurs. Mais on s'aime, voilà, on s'aime. Non, l'amour, c'est profondément l'unité de deux personnes. Et ça va beaucoup plus loin que l'unité de deux cœurs. De la même façon, vous voyez, la charité, c'est pas simplement le fait de dire au Seigneur « je t'aime » ou de faire des choses pour lui. Et la charité, c'est l'engagement de ma personne à l'égard de la personne de Dieu, à l'égard de la personne du Christ. Et ça réclame de tout prendre. Comme l'amitié humaine, d'une certaine façon, réclame de tout prendre, la charité d'autant plus réclame de tout prendre. Pas simplement une question affective dans laquelle on se dit « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te prie », et ainsi de suite. Et c'est pour ça que la charité sera la forme de tout l'agir humain, du chrétien. Parce que, vous voyez, les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, elles réclament d'assumer l'ensemble de mon agir. C'est pas simplement une sorte de truc un peu planant, je crois, j'espère, je t'aime. Vous voyez, c'est l'ensemble de ma personne qui est engagée. De la même façon, au point de vue d'une philosophie éthique, vous voyez, l'acte humain, c'est l'engagement plénier de ce que je suis. C'est pas simplement une tranche de, vous voyez, une tranche d'un côté, une tranche de l'autre, une tranche d'un côté, une tranche de l'autre, puis avec ça, on essaie de refaire le paquet. Non, il faut comprendre que si la vie théologale s'enracine sur mon propre agir, me donne une finalité et me permet justement cet agir dans la foi, l'espérance et la charité, cela se passe à travers toutes mes capacités humaines. Et pas simplement dans le domaine de l'intentionnel. Et c'est pas intentionnel le théologal. Je me souviens une fois, quelqu'un me disait, mais père, parlez pas trop de spirituel, on voudrait du concret, on voudrait du réel. Et on voit bien ce que ça veut dire, c'est que d'un côté il y a le concret, le pratico-pratique, puis de l'autre côté il y a le spirituel. Ça veut dire que c'est quasiment ça qui voit dire que le spirituel ça n'existe pas. La seule chose qui existe c'est les problèmes quotidiens de travail, de sécu, de choses et ainsi de suite. Bon, je sais pas ceux que vous avez, mais aussi une voiture qui roule pas ou d'autres choses comme ça. Et il est clair que trop souvent on est dans cette conception. Une conception d'un côté l'intentionnel, sorte de truc, les bonnes intentions, et puis de l'autre côté, le vrai, le concret. Vous savez, il y a le concret, tandis que, mais non, écoutez, on ne peut pas se permettre de... Si, on veut bien le week-end, mais il ne faut pas trop quand même. On veut bien un petit peu, mais il ne faut pas trop. Parce que si c'est trop, on va se dire, mais comment on peut... Comment... Mais non, ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est intéressant de voir que trop souvent, on est dans cette dissociation entre l'activité du pratico-pratique, du concret tout court, et puis les actes humains qui sont vraiment finalisés. Mais un acte humain qui est vraiment finalisé, il assume l'ensemble de ma personne. Il n'est pas à côté de ma personne. Ce serait intéressant d'essayer de de décliner ça pendant le carrefour cet après-midi, de voir concrètement comment, effectivement, la finalité qui m'est donnée par l'Évangile est capable d'assumer l'ensemble de ma personne humaine et laisse rien de côté. Et le travail n'est pas étranger à la vie théologale. Le fait de dormir n'est pas étranger à la vie théologale. Oui, ben oui. C'est pas étranger à la vie théologale. La vie théologale peut s'exercer même pendant le sommeil. C'est pratique, hein. Ça déculpabilise les dormeurs à l'oraison. Mais non, mais vous, c'est important de voir comment, effectivement, vous voyez, un acte pleinement finalisé, c'est l'assomption de tout ce que je suis. Et il n'y a rien qui est laissé sur la route. Il n'y a rien qui est étranger à cette finalité. Alors, vous voyez, cet agir, il est décrit après d'une façon formelle, à travers la loi. Autrement dit, vous voyez, la loi évangélique va formaliser l'agir du chrétien. Mais une formalisation, s'il n'y a pas la vie derrière, c'est quelque chose d'extérieur. Je parle de la loi évangélique, hein, je ne parle pas de la loi mosaïque. Et pourquoi cela? Parce que je ne suis pas capable, concrètement, de garder toujours ma finalité. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un pédagogue qui me rappelle à cette finalité. Alors, il y a le pédagogue minimum qui fait que je ne m'écroule pas par terre. C'est une fois l'an, tu communieras. C'est quoi? Non, faire ses Pâques, là, vous savez, on fait... On se confesse, tout ça dans le même jour. C'est, voilà, on a fait le mini-minimum. Bon, il y a des lois qui sont un peu plus exigeantes. C'est la loi de l'amour en toute chose. Hein, pensez... à la petite Thérèse, c'est quand même une loi qui n'est pas très simple, même si c'est très beau, mais dans le concret, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, et il est important de voir que, du fait de ce que nous sommes, nous avons besoin d'un pédagogue qui formalise notre agir. Et cela sera donné dans les préceptes que le Seigneur nous donne. Mais tous les préceptes de l'Évangile, le Seigneur formalise la façon dont on doit vivre. Mais faut-il le découvrir par nous-mêmes de l'intérieur? Si on ne le découvre pas de l'intérieur, ce sera quelque chose de purement extrinsèque. Donc on accomplira parce qu'il faut l'accomplir. Alors, ça, à vous de regarder en lisant un peu l'Évangile, la façon dont la révélation néo-testamentaire cadre un petit peu l'agir du chrétien. Il y a un troisième donné qui est important dans l'Écriture, c'est ce que l'on voit dans la première épître de Saint Jean. C'est que le terme de la vie du croyant, c'est de voir Dieu. Et la conséquence de cette vision, c'est d'être semblable à Dieu. Alors, je ne sais plus, c'est 1 Jean, chapitre 2. Bon, vous pouvez lisez toute l'épître de Saint Jean, vous verrez. Autrement dit, la première épître de Saint Jean, vous verrez cette petite phrase où il nous est dit... voilà, j'ai des trous, excusez-moi. Autrement dit, il nous est dit, nous le verrons, alors nous lui serons semblables. Mais alors ça, c'est quelque chose d'important. Voir que le terme de la vie humaine se pose dans la révélation en termes de vision. Et c'est une vision qui n'est pas une vision banale, puisque à partir de cette vision, je serai comme ce que je vois. Mais ce n'est pas simplement une vision extérieure, où je regarde quelque chose en disant c'est beau. Puis moi je reste moi-même. Non, c'est qu'en regardant, je deviendrai ce que je vois. Et ça, c'est le terme de notre espérance. Alors, c'est une conséquence très importante, parce que à partir de ce moment-là, vous voyez, l'agir chrétien, a comme effet une identification à la personne du Christ. Et c'est ça l'important de l'agir du chrétien. Être identifié à la personne du Christ. Non pas d'une façon exemplaire, mais parce que l'exemplarité est toujours extrinsèque. Mais d'une façon contemplative. En le regardant, je deviens ce qu'il est. Alors je le deviens par la grâce, c'est clair. Mais cette grâce qui correspond dans mon agir. Et peut-être que dans ce sens-là, le Christ est cause exemplaire de notre agir. Et c'est quelque chose d'important de comprendre, et que les termes choisis par l'Esprit-Saint pour nous parler de l'aboutissement du royaume, c'est une vision qui m'identifie à celui que je regarde. Et de ce fait-là, tout le chemin par lequel je passe pour atteindre, c'est déjà un chemin de vision. Autrement dit, c'est un chemin de vision partiel, hein, c'est ce que dira... Il faut quand même que je vous donne des références. C'est ce que dira la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Ça vous manquait, hein ? Je vous lis. Maintenant, nous voyons dans un miroir. Et nous voyons. Maintenant, nous voyons dans un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme je suis connu. Et la première épître de Jean, c'est 1 Jean 3,2. Nous le verrons tel qu'il est. Et ce qui est très clair dans l'épître aux Corinthiens, c'est que la façon dont l'homme vit aujourd'hui est déjà quelque chose de ce qu'il vivra plus tard. Alors c'est cette expression si belle de Saint Grégoire de Nazianze, qui nous dit, il ne faut pas que je me trompe dans l'ordre, parce que là je cite de mémoire, bon je vais vous le citer en français, ne vous inquiétez pas, voilà, la vie chrétienne est à la vie du ciel ce que l'aurore est au plein jour. Méditez dessus. Je répète, la vie chrétienne est à la vie du ciel ce que l'aurore est au plein jour. Je veux dire, il n'y a pas de différence essentielle. Il y a un mode qui est différent, mais la réalité est déjà pleinement là. La lumière est déjà là. Alors, profitez des carrefours pour essayer de poser les questions que vous avez à poser. Et puis... Tout à l'heure, on essaiera de voir ensemble Saint Augustin, rapidement, et puis le magistère de l'Église, au sujet de la béatitude.